La situation à Cuba, sous pression croissante, constante de l'administration américaine de Trump, de Donald Trump, ne cesse de se détériorer, autant au plan économique qu'au plan humanitaire, et on peut même se demander jusqu'à quand le régime cubain va pouvoir tenir. On en parle avec François La Rochelle, qui est un ancien diplomate du Canada. Bonjour, Monsieur La Rochelle.
Bonjour.
Donc, les relations entre les États-Unis et Cuba se sont tendues depuis le début de l'année?
Ben, en fait, elles se sont considérablement tendues. En fait, d'abord, Washington a imposé un blocus pétrolier fin janvier. Puis, les Américains ont adopté des vagues de sanctions contre des entreprises et des dirigeants cubains. La justice américaine a aussi inculpé l'ex-président cubain Raúl Castro de complot en vue d'assassiner des Américains dans une affaire qui remonte à 1996. Le 7 mai, Washington a adopté des sanctions pour que les entreprises étrangères rompent tout lien économique avec GAESA, qui est un conglomérat militaire cubain. En conséquence, des chaînes d'hôtels comme la canadienne Blue Diamond et les espagnols Iberostar et Melia, qui géraient des dizaines d'hôtels à Cuba en partenariat avec GAESA, ont annoncé la cessation totale ou partielle de leurs activités à Cuba. Dès le mois de mai, d'ailleurs, la compagnie maritime française CGM et l'allemande Hapag-Lloyd avaient déjà suspendu leur livraison vers Cuba. Et la Havane a annoncé dans les derniers jours la suspension des paiements par carte de crédit Visa ou Mastercard. Et évidemment, la ressource économique vitale pour Cuba, qu'est le tourisme, est durement touchée. En 2025, à peine 1,8 million de touristes ont visité l'île, le niveau le plus bas depuis 2002, si on exclut bien sûr les deux années là, de COVID. Et on sait, en février, les compagnies aériennes canadiennes Air Canada, Air Transat et WestJet avaient suspendu leur vol pour Cuba.
Vous avez parlé de GAESA?
Je pense que ça se prononce GAESA.
Oui, G-A-E-S-A. Mm-hmm. Quel est son rôle dans l'économie cubaine?
Ben, en fait, GAESA, c'est pour, je ne le dirais pas en espagnol, là, mais c'est pour le groupe d'administration d'entreprise SA, a été fondé au début des années 90. Quand il y a eu la chute de l'URSS, le régime cubain a décidé d'impliquer l'armée dans la survie économique du pays. Graduellement, cette organisation a pris le contrôle d'une très grande partie de l'économie. Ça va des stations-service à des supermarchés, des ports, des mines et bien sûr là, le tourisme et des magasins. Mm-hmm. GAESA ne rend de compte à aucun organisme, pas même à l'armée. On ne sait pas où sont placés ses revenus. Selon une enquête du quotidien Miami Herald, GAESA disposait en 2024 d'au moins 17,8 milliards de dollars d'actifs. Les bénéfices de cette structure-là de l'armée en 2023 équivalaient à environ 40 % du produit intérieur brut de Cuba.
En attendant le dénouement de cette crise, la souffrance de la population cubaine prend de l'ampleur.
C'est clair. Le renforcement des sanctions, notamment le blocus pétrolier, a engendré, comme on le sait, des coupures de courant et des pénuries. Le produit intérieur brut de Cuba pourrait baisser de 15 % en 2026, c'est énorme, et le taux de pauvreté atteindre entre 40 et 45 % selon des économistes. Cuba est désormais plongé dans une grave crise humanitaire. Tous les besoins de base de la population sont touchés, de l'alimentation au logement, sans oublier évidemment les transports. La situation sanitaire est critique. La pénurie de carburant, par exemple, empêche les gens de se rendre à l'hôpital. Même les Cubains qui parviennent à consulter un médecin ont du mal à se soigner, car dans les hôpitaux, certains médicaments de base sont introuvables. On en trouve, bien sûr, parfois au marché noir ou grâce à des proches qui reviennent de l'étranger. À la revente, le prix de ces médicaments est hors de portée pour beaucoup de Cubains.
Oui, c'est atroce. Mais qu'est-ce que veut Donald Trump?
Bien, évidemment, comme le reste, on ne sait pas trop.
Ouais.
Il estime, lui, que Cuba représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Il a déjà menacé à plusieurs reprises d'en prendre le contrôle. Son secrétaire d'État, lui, Marco Rubio, qui est un descendant d'immigrés cubains, est obsédé depuis longtemps par la chute définitive du castrisme. Cependant, en parallèle, Washington a ouvert ces derniers mois des négociations avec La Havane. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre hauts fonctionnaires, en particulier avec le directeur de la CIA américaine. Une autre rencontre s'est produite le 29 mai entre de hauts responsables militaires américains et cubains. Cependant, le coup de massue que représente le départ des entreprises étrangères pourrait probablement faire ou pourrait sans doute faire plier
les autorités
ou en tout cas les forcer à accepter les investissements américains. Déjà, Trump a déjà lui-même tenté, lorsqu'il n'était qu'un mania de l'immobilier, de s'implanter sur l'île, autour bien sûr de ces d'hôtels ou pour la construction, c'est toujours la même chose, d'un terrain de golf. Il a même enregistré la marque Trump à Cuba. Mais, en bon québécois, il niaise pas avec le POC. Il commence déjà à pousser ses pions personnels. Un exemple, peu après l'annonce que la compagnie canadienne Sherritt, qui exploitait des mines de nickel et de cobalt à Cuba et suspendait ses activités, on apprenait que la compagnie avait signé un accord préliminaire pour un rachat de 55 % de son capital par la société américaine Gillen Capital, qui est détenu par un certain Ray Washburn. Et comme par hasard, ce Washburn est un proche de Donald Trump.
Tiens, tiens. À quoi on peut s'attendre pour la suite?
Bon, écoutez, les négociations entre Washington et La Havane pourraient peut-être déboucher sur une entente, mais franchement, on peut en douter compte tenu de l'intransigeance du régime et de l'incompétence de l'administration américaine. Il faut donc s'attendre à ce que la politique américaine continue de se durcir. D'ailleurs, le gouvernement américain a, dans les derniers jours, placé sous sanctions économiques le président cubain, Miguel Díaz-Canel, et des membres de la famille Castro. Les experts n'excluent pas une action militaire américaine, mais ne s'attendent pas à une invasion à grande échelle. Ce sont les détails d'un éventuel changement de régime qui demeure la question à $1 million. Par qui remplacer le gouvernement cubain? L'opposition y est interdite et la société civile est réprimée. Et c'est intéressant, en ce qui concerne l'opinion américaine, il y a eu un sondage de la firme YouGov début mai qui révélait que 64 % des Américains étaient opposés à une guerre avec Cuba, une idée qui est soutenue seulement par 15 % de la population. Après le Venezuela et l'Iran, une troisième intervention militaire américaine risque de faire pas mal beaucoup pour Trump. Et donc, c'est un autre bourbier possible pour lui. Cependant, La Havane, c'est pas mal plus près de Washington que Téhéran. On verra évidemment comment ce dossier se développera au cours de l'été, qui, d'autre part, s'annonce particulièrement chaud sur la scène internationale.
Oui, pas que météorologiquement.
Non.
Non. Alors, c'est votre dernière pour la saison. Merci pour tout, François Larochelle. C'est toujours très éclairant lorsque vous venez en studio pour nous parler de l'actualité internationale.
J'essaie d'être utile.
Oui, vous l'êtes. Bon été.
Vous aussi.
Et on se retrouve sans doute au printemps, à l'automne.
En septembre. Allez, au revoir, bon été.